There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions de morts, 500 000 femmes violées, des centaines de milliers de kilomètres carrés de forêts dévastées. C'est la situation dramatique qui se déroule depuis maintenant une vingtaine d'années en République démocratique du Congo et plus particulièrement dans une région de l'est du pays qu'on appelle le Kivu, région qui est frontalière du Rwanda et où se déroule une guerre à ciel ouvert avec des massacres de populations civiles extrêmement importants. Une guerre qui fait partie de ces guerres oubliées, de ces guerres méconnues, dont on parle peu et dont nous allons essayer au cours de cette émission de mettre les projecteurs pour évoquer ce drame congolais, pour évoquer ce drame qui dépasse d'ailleurs largement le cadre du Congo, mais qui concerne cette partie de l'Afrique qu'il est convenu d'appeler la partie des Grands Lacs et dont la France a été partie prenante et a aussi eu à intervenir, notamment sur la question rwandaise. Alors, pour essayer de démêler cette question ô combien compliquée, je reçois cette semaine Charles Onana. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous venez de publier un ouvrage essentiel qui s'intitule « Holocauste au Congo », qui est paru chez l'Artilleur. Alors, ce n'est pas votre premier ouvrage. Vous avez consacré plusieurs enquêtes à cette région des Grands Lacs. Vous êtes vous-même docteur en sciences politiques et vous travaillez sur la région de l'Afrique des Grands Lacs. Et je cite vos derniers ouvrages, notamment une enquête sur le Rwanda et l'opération Turquoise, Rwanda, la vérité sur l'opération Turquoise. Un autre, Rwanda, 6 avril 1994, qui est donc l'enquête sur l'attentat qui a conduit ensuite au massacre de 1994 au Rwanda. L'ensemble de ces ouvrages étant publiés aux éditions L'Artilleur et comme chaque semaine, les références peuvent être retrouvées sur le site de Conflit, revueconflit.com. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être dressons un cadre géographique parce que la géographie du Congo et de l'Afrique est toujours un peu complexe et si on n'a pas en tête l'ordonnancement des pays et puis les différents peuples qui sont présents, on risque d'être rapidement perdu. Donc, nous sommes dans une région qui s'appelle le Kivu, qui est à l'est du Congo, frontalière du Rwanda, c'est ça?
Exactement. Le Kivu se situe dans la partie ouest du Rwanda, mais dans la partie est du territoire congolais. Et les deux pays se situent effectivement au niveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. Donc le Rwanda est beaucoup plus proche de l'Afrique de l'Est que de l'Afrique centrale, alors que le vaste Congo, RDC, est situé au cœur de l'Afrique centrale et déborde un tout petit peu vers l'Afrique de l'Est. Donc il faut rappeler également que pour au niveau des populations, il y a la population rwandaise est composée de trois groupes essentiellement, les Hutus, les Tutsis et les Twa. En 1994, les Tutsis étaient minoritaires dans le pays, environ 14%. Et la minorité de la minorité, et c'était les Twa qui constituaient à peu près 1%, tout le reste de la population était constitué de Hutus. Donc cette guerre qui a donc éclaté entre Hutus et Tutsis pour la conquête du pouvoir politique, on a toujours tendance à l'oublier, à se focaliser uniquement sur les massacres, mais c'était d'abord une affaire de conquête de pouvoir. Les Hutus étaient au pouvoir depuis l'indépendance quasiment du pays. Et avant que les Hutus ne prennent le pouvoir au moment des indépendances dans les années 60, c'était la monarchie Tutsi qui était minoritaire, qui dominait pendant plusieurs siècles le Rwanda. Donc, Suite donc à l'accession du Rwanda à l'indépendance, les Belges qui administraient ce pays-là ont décidé de soutenir la majorité Hutu cette fois, et c'est ainsi que le changement d'alliance entre l'ancienne administration belge et le nouveau régime Hutu a pu s'opérer, et c'est ainsi que depuis 1960, on s'est retrouvé en 1994 avec la chute cette fois du régime Hutu et avec la prise du pouvoir de la minorité Tutsi, qui aujourd'hui on ne sait plus si elle est toujours minoritaire ou majoritaire, puisque la majorité de la population a été expulsée quasiment sur le territoire congolais, et c'est ce qui va expliquer qu'on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de problèmes au Congo.
Donc c'est Paul Kagame qui dirige le Rwanda depuis quasiment 25 ans, lui issu des Tutsis.
29 ans, maintenant, 29 depuis 1994.
Ah oui, donc ça fait encore plus longtemps. Et effectivement, alors on a le Rwanda, il y a le Burundi qui est au sud. Cette région-là a été sous administration belge à l'époque où les Belges étaient administrateurs. Donc ça explique aussi d'abord pourquoi ça est francophone et pourquoi la Belgique était un petit peu impliquée dans la question. Et vous l'avez dit, 1994, on a à la fois des massacres et ensuite expulsion de populations qui se réfugient au Congo.
Effectivement, il s'agit, contrairement à ce que beaucoup d'organisations humanitaires internationales ont pu avancer à l'époque, c'était de dire que, en fait, les réfugiés rwandais qui se retrouvaient sur le territoire congolais, c'était un dégât collatéral, en quelque sorte. Non, aujourd'hui, j'apporte quand même suffisamment de preuves dans mon livre pour expliquer qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Hein. Ce n'est pas parce que il y avait la guerre que les Hutus sont retrouvés majoritairement sur le territoire congolais. Non, c'est en analysant la stratégie militaire qui a été utilisée dans la conquête du pouvoir de Kagame à l'intérieur du Rwanda que j'ai compris que non seulement parce qu'ils attaquaient, ils sont venus de l'Ouganda. L'Ouganda qui se situe dans la partie nord du Rwanda. Donc les Kagame et ses troupes étaient en fait des militaires de l'armée régulière ougandaise et soutenus par les États-Unis, par la Grande-Bretagne. Et à l'époque, quand ils ont conquis le pays, ils ont attaqué par le nord et ils poussaient les populations vers le sud et le centre du pays, mais en passant du côté est du Rwanda. Et donc en poussant les populations vers l'ouest du pays, de l'ouest du Rwanda, ils ont fermé la frontière avec la Tanzanie et le Burundi, qui étaient à la fois au sud et à l'est. Donc, ils ont poussé les populations uniquement vers le territoire congolais. Mais pourquoi les troupes de Kagame poussaient les populations vers le territoire congolais? C'est parce que en fait, le Rwanda en tant que tel n'était pas un enjeu. Ce qui était le véritable enjeu, c'était les richesses qui se trouvent à l'est du territoire congolais. Et il fallait pousser les Hutus là-bas. Pour la raison évidente que Kagame a commencé dès 1994 à dire que ces gens étaient tous des génocidaires. Donc c'était des gens qui avaient organisé le génocide, etc. Donc vous aviez des bébés, vous avez des femmes, vous avez des enfants qui étaient tous considérés comme des génocidaires et poussés à l'exil forcé à l'est du territoire congolais. Et c'est ainsi donc qu'il va prétexter, il va prendre prétexte du fait que des génocidaires se trouvent à l'est du Congo pour attaquer effectivement le Congo, alors qu'en fait, il s'agit de ce que moi j'ai appelé une invasion masquée du territoire congolais.
Donc on a, vous l'expliquez bien, des populations qui ne sont pas des réfugiés de guerre, mais qui sont plutôt victimes d'un nettoyage ethnique, qui sont chassés, avec comme finalité après de justifier l'invasion de la partie est du Congo.
Vous avez parfaitement résumé la situation. Donc, on n'a pas affaire à des gens. On est dans une configuration où on pousse militairement des populations vers un territoire qui n'est pas le leur. Et pendant près de deux ans, c'est-à-dire entre 1994 et 1997, le moment où le Rwanda a attaqué le Congo, ben il y a eu beaucoup de tergiversations avec le HCR, les États-Unis qui se sont emparés de ce dossier parce que j'ai, en examinant les archives du président Clinton et les archives du Pentagone, une partie des archives du Pentagone, j'ai constaté effectivement que, en fait, tout cela procédait d'une logique de préparation de la guerre, et en interrogeant des officiers supérieurs qui ont travaillé dans la région, qui connaissent bien la région, et tous m'ont dit que pour pouvoir obtenir une invasion d'un vaste territoire comme le Congo, c'est dès 1994 que ça a été préparé. Et j'ai retrouvé effectivement beaucoup de rapports du Pentagone qui attestent effectivement que le Rwanda a préparé avec les États-Unis cette invasion depuis 1994, et ce n'est qu'en 1997 que cela a été exécuté.
Il y a d'ailleurs plusieurs documents que vous mettez à la fin de l'ouvrage. Alors, il y en a, bon, c'est un petit panel hein, de ce que vous avez pu voir, et vous l'avez dit, c'est important parce que nos éditeurs n'ont pas forcément en tête comment fonctionnent les archives américaines, mais les archives sont assez rapidement déclassifié. Enfin, du moins, pas tout, évidemment, mais une partie, ce qui fait qu'on peut accéder aux documents des différentes présidences. Et là, notamment, vous avez étudié la présidence Clinton, puisque c'est lui qui était président à l'époque.
Tout à fait. Mais j'ai eu aussi des archives qui n'étaient pas déclassifiées, parce que je connaissais personnellement l'envoyée spéciale de Bill Clinton dans la région, qui s'appelait Madame Cynthia McKinney, qui a été 12 ans au Congrès américain, et j'ai pu consulter ses archives personnelles. Et effectivement, j'ai pu découvrir effectivement des lettres de Clinton qui lui ont été adressées, et c'était stupéfiant de constater, d'abord au niveau de la recherche universitaire, de constater que la masse de documents déclassifiés des archives américaines et les archives privées que vous pouvez voir, quand vous voyez le niveau d'implication des États-Unis dans ce dossier, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a dit sur la France. Mais il y a un décalage entre la masse de documents disponibles et le niveau de travail effectué sur le plan universitaire, sur le plan de la recherche dans ce domaine. Et ça, c'était pour moi quelque chose d'assez surprenant.
Alors, si on rajoute une couche de complexité, il y a la question congolaise, parce que là aussi, ça fait partie du drame et de l'enjeu, question de lutte de pouvoir, lutte d'influence au Congo. On a Mobutu, qui est le dirigeant du Congo, dirigeant un peu historique, à l'époque où ça s'appelait le Zaïre, et avec une volonté de certaines parties de le renverser, et il a été remplacé par Laurent Désiré Kabila. Donc ça a été aussi un drame dans le drame, si je puis dire, la question congolaise.
Alors ça, c'était, je dirais, l'élément central du jeu politique et de la situation géopolitique, la recherche de l'influence et de la domination des États-Unis sur la France. Hein, parce que il faut rappeler que lorsque Mobutu, avant la chute de Mobutu, le seul véritable allié de Mobutu, c'était devenu la France. Alors qu'en fait, Mobutu avait été installé au pouvoir en 1965 par la CIA en assassinant en quelque sorte Patrice Lumumba, qui était le premier ministre de l'époque qu'on accusait d'être pro-soviétique, etc. Bon, donc pendant toutes ces années, la CIA, la Maison Blanche ont soutenu le maréchal Mobutu, quel que soit son régime, et l'objectif central, c'était que Mobutu était en quelque sorte le rempart anticommuniste en Afrique centrale et en Afrique australe. Donc, ils se sont servis de Mobutu pendant toutes ces années, sauf qu'en 1993, lorsque Bill Clinton arrive aux affaires, l'objectif de Clinton, c'est de se débarrasser de Mobutu, parce qu'il a déjà en tête de trouver, il a déjà trouvé en quelque sorte celui qui peut servir les intérêts des États-Unis, qui est Paul Kagame, et à travers déjà Yoweri Museveni, qui est le président ougandais. Donc, c'est le président ougandais qui va servir en quelque sorte de base arrière de la préparation de l'invasion du Zaïre et à l'époque devenue République démocratique du Congo aujourd'hui. Et c'est à partir du territoire ougandais que Paul Kagame va recevoir des armes pour alimenter sa guerre au Rwanda et bien entendu au Zaïre. Et lorsque le Pentagone décide en 1997 d'aider Kagame à envahir le Congo, le Zaïre, c'est encore l'Ouganda qui va recevoir toutes les armes vont passer par l'Ouganda, et l'Ouganda servira encore une fois de plus de base arrière pour la conquête du territoire congolais. Et c'est à partir de là que tout va être organisé, en instrumentalisant une partie de la population Tutsi qui se trouvait également à l'est du Congo, mais qui travaille déjà en relation avec Paul Kagame pour organiser la chute du président Mobutu en prétextant tout simplement que les Tutsis qui sont sur le territoire congolais sont marginalisés, persécutés, harcelés, etc. Et quand on regarde les rapports américains, nuancent beaucoup ces accusations et cette mise en cause.
Pourquoi est-ce qu'avoir mis en place Kabila, enfin comment lui, Laurent Désiré Kabila, comment est-ce qu'il arrive dans le jeu et il prend le pouvoir?
Alors, l'objectif est d'installer un régime Tutsi à la tête du Congo. Ce que j'ai dit là est extrêmement grave parce que c'est pour ça que tout cela est un peu masqué, c'est pour ça qu'on ne veut pas en parler et qu'on ne veut pas en parler de façon objective. Alors, le but, c'est d'installer des gens qui sont favorables aux États-Unis à la tête du Zaïre. Et pour masquer cela, ben, on va prendre Laurent Désiré Kabila, qui est un ancien maquisard, qui est opposant de longue date au maréchal Mobutu, mais qui n'est pas un chef militaire, qui est un responsable politique, qui a fait le maquis avec Che Guevara. Et ils vont aller le recruter en Tanzanie, ils l'amènent au Rwanda, et c'est à partir du Rwanda, donc on va constituer la force militaire qu'on va appeler l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques, oui. pour pouvoir renverser un régime qui, lui, n'était pas tout à fait démocratique non plus. Donc, Kabila est en quelque sorte le paravent dont on va se servir pour dire que, en fait, un opposant congolais veut renverser un président congolais. Alors qu'en réalité, l'armée qui envahit le Congo est une coalition, en fait, d'armées étrangères. Et les États-Unis, pour ajouter un peu de complexité et de cynisme dans l'affaire, vont se servir également des Ougandais qui ont combattu, que Mobutu a combattu pendant près de 30 ans, qui était un régime communiste en Angola. Donc, et ils vont se servir des Angolais pour venir renverser le maréchal Mobutu. Donc il va y avoir la coalition des armées de l'Angola, du Rwanda et de l'Ouganda pour prêter main forte aux Tutsis qui sont au Congo pour renverser le maréchal Mobutu que les États-Unis ont soutenu pendant près de 32 ans.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que le Congo, c'est un État qui est immense. Enfin, quand on vous regarde une carte, il occupe quasiment tout le centre, voilà, tout le centre de l'Afrique. Et surtout, sa capitale est très loin de cette région. Kinshasa, c'est au bord du fleuve Congo, en face de Brazzaville. Et donc, la capitale politique est extrêmement éloignée de ce théâtre d'opération.
Absolument, absolument. Et c'est ce qui est amusant, c'est que, pour bien préciser les choses, c'est que lorsque Kabila est amené dans les bagages des armées ougandaises, rwandaises et angolaises, eh bien, c'est Kabila qui connaît le pays. Et donc, c'est lui qui guide un peu les envahisseurs jusqu'à Kinshasa. Et Mobutu ne croyait pas qu'ils allaient arriver à Kinshasa. C'est lorsque ses conseillers lui font comprendre qu'en fait la situation militaire est catastrophique et qu'il va falloir quitter le pays, Mobutu ne comprend pas comment ils ont réussi à arriver si rapidement à Kinshasa. Mais en fait, c'est parce que son armée était déjà corrompue, les services de renseignement américains étaient au courant que l'armée congolaise ne tiendra pas le coup. Mais dès qu'ils vont arriver, c'est un Tutsi rwandais, James Kabarebe, qui va devenir le chef d'état-major de l'armée congolaise au moment où Mobutu est renversé. Et plusieurs Tutsis vont prendre les rênes du pouvoir dans les postes politiques stratégiques dans ce pays-là, ministère des Affaires étrangères, etc. Et puis finalement, la situation va se stabiliser pendant un an où le Rwanda va quasiment gouverner le pays jusqu'à ce que Laurent Désiré Kabila entre en révolte contre ses anciens alliés devenus très encombrants et très envahissants à Kinshasa.
Mal lui en a pris d'ailleurs parce qu'il termine assassiné. Il est resté au pouvoir 4-5 ans.
Il a été assassiné en 2001. Et là, encore une fois de plus, on ne veut pas que faire la lumière sur cette affaire parce que j'ai constaté en consultant pas mal d'archives que non seulement le président Kabila était considéré par les États-Unis, la Banque mondiale, comme celui qui allait aider à l'arrivée de l'économie de marché en Afrique centrale, mais lorsque, mais ça c'est des éléments de langage au niveau de la communication politique et géopolitique internationale, en réalité, ce qu'ils cherchaient, c'est d'avoir un pantin à la tête de la RDC pour puiser dans toutes les réserves minières qu'il y a à l'est du Congo. Et lorsque Laurent Désiré Kabila a compris ce qui était en train de se passer, il a décidé de se séparer de ses alliés. Et c'est là que Cynthia McKinney m'a expliqué qu'en tant qu'envoyé spécial de Bill Clinton dans la région, Kabila lui avait dit que les États-Unis exerçaient des pressions extrêmement fortes sur lui pour qu'il cède la gestion des mines aux Rwandais, et ça, il n'en voulait pas.
Alors, il est assassiné en 2001 et son fils, Joseph, arrive à reprendre le pouvoir. Donc, il y a quand même une dynastie Kabila qui se met en place.
Alors, ça encore, c'est un grand point d'interrogation, parce qu'il n'est pas du tout prouvé que Joseph Kabila est le fils de Laurent Désiré Kabila. Et, il a été formé dans l'armée du FPR, l'armée de Paul Kagame. On soupçonne qu'il est de parents tutsis, et en fait, lorsque l'assassinat de Kabila a lieu, eh bien, il faut dire que les dirigeants congolais ont peur de prendre le pouvoir, parce que ils voient le rapport de force militaire qui est très largement favorable à Kagame et aux Ougandais, et donc ils désignent de facto Joseph Kabila. Ça, c'est un ministre de Laurent Désiré Kabila qui me l'a expliqué. Que il y a eu unanimité sur le choix de Joseph Kabila, parce que on se disait, si c'est Joseph Kabila qui est au pouvoir, on risque pas d'être déstabilisé rapidement. En fait, il a été, le chef d'état-major, celui, le Rwandais, qui est devenu chef d'état-major en 97, lorsqu'ils ont renversé le Mobutu, a confirmé que c'est lui qui a formé Joseph Kabila. Et moi, j'étais en contact pendant de très longues années avec, je dirais, le tuteur de Joseph Kabila en Tanzanie, et qui m'avait dit que non, Joseph Kabila n'était pas du tout congolais. Donc, en fait, on s'est retrouvé en quelque sorte avec un Rwandais, entre guillemets, à la tête de l'État congolais, et tout le monde a validé cela en faisant comme s'il était congolais et comme s'il était effectivement le fils de Laurent Désiré Kabila.
Et donc lui, il reste au pouvoir jusqu'en 2019. Aujourd'hui, quelle est la situation au Congo? On a un nouveau président, Tshisekedi, qui est à l'élection du pays. Comment est-ce que cette crise au Kivu est gérée par le gouvernement actuel?
Alors, c'est un peu compliqué, parce que je pense que lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a pensé que en cherchant à faire la paix avec le Rwanda, la situation allait s'améliorer. Ils ont essayé de signer de nombreux accords de paix qui n'ont jamais été respectés par le Rwanda, et donc constatant que ses voisins belliqueux avaient décidé de mordre une partie de son territoire, mais surtout de s'emparer de ses richesses, puisque la plupart des rapports des Nations Unies le confirment. Eh bien, il a décidé donc de mettre en cause le Rwanda dans cette invasion et dans cette guerre. Donc, on est donc passé d'un rapport de proximité, de grande proximité à l'arrivée du pouvoir du président Tshisekedi, aujourd'hui à une opposition, je dirais tout au moins politique, entre lui et son voisin rwandais.
Alors, revenons sur l'actualité, notamment ces problèmes qu'il y a. Vous évoquez un nombre de morts qui est vraiment effroyable. Pourquoi est-ce que les massacres continuent? Est-ce que c'est dû à une logique politique d'épuration, de contrôle du pays? Est-ce que ce sont des vengeances aussi entre les différents peuples?
Non, pas du tout. Les organisations internationales ne veulent pas beaucoup dire la vérité sur cette affaire. On comprend très bien, quand vous savez que les États-Unis, la Grande-Bretagne, même la France sarkozienne a soutenu énormément Paul Kagame, on comprend qu'il est très difficile de venir dire la vérité, parce que il y a beaucoup d'enjeux sur le plan économique. Alors, ce qui se passe avec cette affaire, c'est simplement que Le nombre de morts s'explique par une dimension politique et militaire. Sur le plan politique, le Rwanda de Kagame a véritablement envie de s'emparer de, à la fois de, du territoire, la partie est du Congo qui est riche en minerais comme le cobalt, le coltan et tous les minerais stratégiques aujourd'hui. Et ensuite, ils ont envie d'avoir quelqu'un à Kinshasa, c'est-à-dire qu'ils veulent s'emparer du pouvoir de Kinshasa pour dominer à la fois le pays sur le plan politique et sur le plan économique. Et donc, la dimension militaire vient s'ajouter à ça. Pourquoi ? Parce que pour réussir à complètement leur opération, il faut vider l'est du Congo de sa population autochtone. Et donc, c'est pour cela que depuis plusieurs années, les massacres les plus effroyables se déroulent dans cette partie du monde, dans le silence et la complaisance la plus totale, pour laisser Kagame effectivement installer des populations venues du Rwanda, généralement des Tutsis, et vous allez constater que sur plus de 450 communautés ou tribus qu'il y a au Congo, celles les Tutsis, dits du Tutsis du Congo, sont constamment devant l'actualité et on ne cherche pas à savoir pourquoi ils font des revendications en menant une lutte armée. Donc, s'il y a des problèmes de droit, en général, quand on a un État qui fonctionne à peu près correctement, on cherche à régler ces problèmes de façon pacifique et de façon civilisée. Là, la façon dont on égorge et viole, il y a plus de 500 000 femmes violées en République démocratique du Congo, c'est-à-dire un demi-million de femmes violées depuis à peu près 30 ans. Et ça, c'est quelque chose de totalement incompréhensible. Et quand on viole les femmes et qu'on les traumatise, ben, le but, c'est quoi ? C'est qu'elles quittent la région et qu'elles aillent vivre ailleurs. Et c'est un peu l'objectif qui est visé de prendre ce territoire en vidant la région de ses populations.
Vous évoquiez en début d'émission les purifications ethniques qui avaient été opérées dans les années 1990, donc les populations qui étaient arrivées au Congo. Ces populations, qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Elles sont restées au Congo ou est-ce qu'elles sont après rentrées au Rwanda ? Est-ce que c'est elles qui, aujourd'hui, sont attaquées ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que les populations Hutus qui sont venus sur le territoire rwandais, Kagame avait également envie de vider, de régler un problème politique, c'est-à-dire que les Tutsis étant minoritaires au Rwanda, pour rester au pouvoir au Rwanda, par la voie des élections libres et démocratiques, il faut que vous puissiez démontrer que, même en étant une minorité, vous êtes capable de rassembler la majorité des populations. Bon, le FPR n'étant pas un régime démocratique, puisqu'en arrivant, ils disaient qu'ils apportaient la démocratie, mais ils y sont depuis 30 ans, c'est-à-dire que plus d'années que le président Habyarimana qu'ils ont renversé, eh bien, ils ont réglé le deux problèmes en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont vidé le pays de la majorité Hutu. Et ils n'ont jamais voulu que cette majorité Hutu revienne. Et ça a été l'objet de tergiversations entre le HCR, les États-Unis et l'Union européenne pendant 2 ans, c'est-à-dire de 1994 à 1995. Et j'ai retrouvé un rapport de M. Ado Aiello, qui était le représentant de l'Union européenne, qui dit très clairement que l'objectif de Kagame était de ne pas accepter que les réfugiés Hutus reviennent dans leur pays, mais qu'ils vivent indéfiniment dans les pays où ils se sont exilés.
Alors, on parle beaucoup de la présence russe en Afrique et de Wagner notamment. Est-ce que on a des Russes qui interviennent dans cette région ou pas du tout ? Est-ce que c'est uniquement une mainmise américaine ?
Alors, ce qui est très intéressant avec la Russie, c'est que la Russie est implantée en République centrafricaine. Et les Russes ont évidemment la volonté de surveiller, tout au moins de s'informer de ce qui se passe avec les Américains, leurs adversaires politiques sur le plan géopolitique en RDC. Et ils surveillent également la politique de la France dans cette région-là, notamment en République centrafricaine, au Tchad et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on est en pleine bataille géopolitique entre ce qui est aujourd'hui la Russie, les États-Unis et l'Europe de l'autre. Et dans cette bataille géopolitique, évidemment, tout le monde fait porter le chapeau aux Russes en les traitant de tous les noms d'oiseaux, mais on ne veut pas faire une analyse objective parce que en fait c'est une zone qui est traditionnellement la zone d'influence à la fois française et américaine, et ce sont des populations qui ont toujours été très largement favorables à la France et encore moins aux États-Unis qu'à la France et à la Belgique, pour ce qui est du Zaïre. Mais même quand les Belges, il y a eu des amours entre les Belges et les Zaïrois, donc les Congolais, ce sont les Français qui passaient pour être les gens les plus acceptables dans cette région. Donc, je pense que la mauvaise gestion, et bon, on l'a vu à travers la crise de 94 avec l'opération Turquoise, où on a dit tout et n'importe quoi sur l'opération Turquoise, alors qu'en fait, si on avait pu gérer la situation de l'opération Turquoise avec beaucoup d'intelligence et avec une vision géopolitique sérieuse, eh bien, la France serait aujourd'hui un médiateur très écouté et très intéressant dans la région. Ça n'a pas été le cas. Donc, je pense qu'effectivement, les Russes ont profité à la fois de cette mauvaise gestion et de la position très agressive des États-Unis, y compris sur d'autres champs politiques, pour venir s'implanter dans cette région et essayer aussi de nuire à leurs adversaires.
Et la Chine, c'est un sujet pour elle ? Parce qu'on sait qu'elle est présente dans d'autres pays d'Afrique de l'Est, notamment les pays côtiers.
Alors, la Chine est beaucoup plus intéressante dans l'analyse sur cette affaire parce que la Chine est implantée en République centrafricaine, au Congo-Kinshasa, au Soudan également, puisque le Soudan est frontalier également de la République démocratique du Congo. Et donc, la Chine s'occupe uniquement des aspects économiques, c'est-à-dire que plus la Chine obtient des marchés et accède aux matières premières qui sont dans cette région, mieux elle se porte, et c'est son objectif principal. Donc elle laisse, mais ce qui ne veut pas dire qu'elle est dénuée de toute prétention géopolitique. Mais la Chine a compris que la meilleure façon de s'implanter dans cette région, c'est de laisser la politique aux politiciens de faire des affaires, et une fois qu'on a consolidé ses positions à travers les affaires, eh bien, on pourra faire la politique sans difficulté.
Quelle issue vous voyez dans les années qui viennent ? Est-ce que vous pensez que le problème peut se résoudre ou que ça va continuer dans une grande indifférence ?
Tout est possible. Je ne pense pas qu'il y a un scénario qui peut l'emporter dans l'état actuel de la situation. Et je pense aussi que ce qui va se passer en Ukraine va redéfinir un peu le combat géopolitique dans cette région. Parce que si ce sont les Américains qui remportent dans la bataille contre la Russie en Ukraine, il est évident que les Américains vont chercher à se réimplanter sérieusement. Ils ont déjà Paul Kagame et Museveni dans la région qui font un peu le travail. Mais si c'est les Russes qui prennent le dessus, eh bien, il est évident que les Russes vont utiliser effectivement ce que aura fait Kagame et ce que auront fait les Américains dans cette région pour dire, écoutez, les millions de morts, ce n'est pas nous. Eh bien, si vous travaillez avec nous, je pense que vous n'aurez pas ce genre de situation. En tout cas, chacun essaiera d'abattre ses cartes pour essayer de se positionner de façon vigoureuse dans cette région.
Merci beaucoup, Charles Onana, d'avoir évoqué pour Conflit cette situation éminemment tragique. Je renvoie à votre ouvrage Holocauste au Congo, qui est paru chez l'Artilleur, qui peut être commandé via le site internet de Conflit et puis évidemment dans toutes les librairies. Et je vous rappelle également que sur notre site internet, vous pouvez retrouver nos numéros actuels et nos anciens numéros, site revueconflit.com. Merci pour tous ceux qui sont abonnés. Nous ne vivons que par nos abonnements et par nos lecteurs. Achat en kiosque également. N'hésitez pas à faire connaître Conflit, à les faire connaître à vos proches, à encourager également les abonnements. C'est ainsi que nous pouvons vous proposer notamment ce contenu en accès libre que sont ces émissions hebdomadaires. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.
Hi. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.